Donc il y a des récits très très drôles, hein. Il y a des récits, on va les prendre en tout cas sur le ton de l'humour. Et puis il y a des récits un petit peu non pas plus graves, mais en tout cas qui soulèvent des questionnements un peu plus importants, des questionnements qu'on peut avoir dès 13 ans, même plus tard. Il y a pas tellement d'âge concernant les appréhensions, la découverte de son corps, de l'autre sexe, des émotions qu'on pourrait ressentir et qu'on contrôle pas forcément, et on se pose la question de savoir si ce sont des choses normales ou pas. Et là, nous, on a trouvé bon de mettre tout ça un petit peu en vie et de s'appuyer là-dessus et de faire intervenir Sandra Massé, qu'on avait eu l'occasion de rencontrer, nous, au service jeunesse, avec le service enfance également, petite enfance, l'année dernière, lors d'une conférence qui avait été donnée au cinéma Le Générique intercommunal de Montbazon. On a également, lors de la semaine de la parentalité, comme c'est le cas cette année. Et donc, Sandra Massé avait la lourde responsabilité de reprendre un petit peu les thématiques abordées, les témoignages qui étaient donnés dedans. Et c'était donc l'objet aujourd'hui de venir échanger avec les parents et éventuellement les ados, même si les ados ils sont un petit peu plus réticents à venir. Au revoir, salut. Ils étaient un petit peu plus réticents à venir. On a eu des parents aujourd'hui. Donc Sandra Massé, bonjour.
Bonjour.
Comment vous les avez les sentis, ces parents? Parce que vous êtes une grande habituée des conférences comme ça.
Plutôt à l'aise en fait. Plutôt à l'aise, très à l'écoute. Et avec le désir quand même, effectivement, d'échanger. Il y a eu un moment intéressant où ils échangeaient entre eux aussi.
Oui.
J'ai senti aussi qu'ils avaient pas mal de questionnements quand même. Ils n'en ont pas posé non plus énormément, mais on sent que c'est un sujet qui les préoccupe, qui les intéresse et sur lesquels ils ont aussi beaucoup de questions. Je crois qu'ils doutent de leur capacité à pouvoir gérer cette période-là.
Mais déjà, ils se posent des questions et souvent ceux qui viennent sont ceux qui se posent des questions et ceux qui ne viennent pas sont ceux qui n'y pensent pas. Est-ce qu'on prêche pas un peu des convaincus déjà?
En général, les gens qui se déplacent, oui, sont déjà plus ou moins convaincus, on est bien d'accord. C'est-à-dire que souvent, les gens qui en auraient réellement besoin ne sont pas présents, malheureusement.
Et parfois facilement repérables dans l'assemblée, justement, on peut les voir un petit peu se décomposer ou se cacher un petit peu. Est-ce que vous arrivez, vous, à déceler ces comportements, ou est-ce que vous n'y prêtez pas du tout attention? Est-ce que vous allez en discuter un petit peu après, comme ça, ou vous attendez que les gens viennent vous voir? Comment ça se passe?
Tout à l'heure, je décelais justement ce comportement. C'est pour ça que j'ai interpellé deux femmes en leur demandant si elles voulaient nous faire part de leurs opinions ou de ce qui les préoccupait sur ce sujet. C'est-à-dire que quand c'est assez flagrant, c'est que la personne elle-même cherche pas tant que ça, du coup, à le cacher. Elle est pas à l'aise, mais donc je vais interpeller là-dessus. Quand d'autres ont une attitude plus réservée, je vais pas les mettre mal à l'aise vis-à-vis des autres et je vais pas forcément les interpeller. Je souhaite bien sûr que cette personne, à la fin, si elle le peut, vienne chercher quelque chose auprès de moi, une réponse à une question. Je vais pas aller, moi, par contre, vers les gens, j'ai pas envie de les déranger. C'est-à-dire que mon statut de psy fait que, du coup, je peux être... Ça peut être impressionnant pour les gens de voir débarquer quelqu'un qui a ce statut-là, qui exerce cette profession. Parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle a vu de moi, ou qu'est-ce qu'elle peut avoir deviné? Ça peut mettre facilement les gens mal à l'aise, donc je préfère qu'ils viennent d'eux-mêmes.
Pourtant, vous installez quand même un ton volontairement décontracté.
Absolument, oui, je fais.
Bon enfant, la discussion est facile à mettre en place, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on l'a vu, c'est-à-dire que les gens, au fur et à mesure de la discussion, au début, forcément, vous écoutent religieusement, et puis après, se lâchent un petit peu, échangent entre eux, réagissent physiquement à vos interventions, et à la fin, ça finit par se décanter, et en limite, on les arrête plus.
C'est ça, mais c'est volontaire ce ton, parce que j'ai pas envie que ce soit quelque chose de très académique. J'ai envie qu'en fait, ils se rendent compte comme si c'est très accessible, et que la psychologie l'est aussi, et qu'en fait, c'est du discours du quotidien, et que le psychologue, ça gère du quotidien, et que ce serait dommage de pas pouvoir parler avec quelqu'un qui gère du quotidien, simplement de ce quotidien. Donc mon ton, il est exprès comme ça, décontracté, humoristique, je suis rarement culpabilisante sur ce que je dis, même quand ça peut l'être, je vais essayer d'amener ça avec un peu de dérision, un peu d'humour, et je me rends compte, par rapport à toutes les interventions que je fais, que ça libère facilement, en fait, le discours et la parole chez les gens en face, et qu'ils se sentent assez confiants pour poser des questions, même quand elles sont personnelles.
Qu'est-ce que vous retenez de l'intervention d'aujourd'hui dans les phrases entendues, les questionnements?
Que ça ne change pas. Je retiens que ça ne change pas. Ça fait des années que j'exerce ce métier.
Et que les questions sont les mêmes.
Et que les questions sont toujours les mêmes, en fait. Je me rends compte que rien ne change, qu'on a toujours les mêmes difficultés, qu'on se pose toujours les mêmes questions, qu'on appréhende toujours les mêmes choses. Et je ne sais pas, en réalité, si ça devrait changer ou pas. Je me rends compte juste que, malgré l'évolution de la société, il y a des sujets qui restent toujours importants et sur lesquels on se questionnera toujours de la même façon.
Comment peut-on plus facilement lever des tabous? Avez-vous des solutions autres que celles de venir dans votre cabinet ou de vous faire venir en conférence?
Moi, j'aimerais qu'on éduque un peu les parents et les enfants à communiquer entre eux. Le problème, il est souvent là, en réalité. C'est-à-dire que les sujets eux-mêmes ne sont pas problématiques. C'est le fait de pouvoir en discuter qui est problématique. Et ça, c'est vraiment le point, moi, sur lequel j'appuie les choses. Je pense que tout le travail qui est fait autour de la parentalité devrait aussi être axé sur la communication avec leur enfant et pas seulement du soutien à la parentalité, mais du soutien à la communication et à l'exercice de cette parentalité, en fait.
Il y a des solutions à mettre en œuvre facilement.
Vous avez des idées, vous?
Oui, j'ai des idées. On peut faire des journées comme aujourd'hui. Oui. Il y a des outils à mettre en place, des expositions peut-être, le livre. Le livre, peut-être que c'est un support pour pouvoir discuter avec ses parents. Je sais pas, il y a des supports audiovisuels peut-être qui existent. Mais c'est quand même difficile, hein. Et vous avez parlé tout à l'heure de la scolarité. Et dans le cadre de la scolarité, et ça, c'est une question que j'aurais pu soulever tout à l'heure. Effectivement, vous avez parlé d'éducation à la sexualité, enfin, en tout cas, à la découverte de certaines parties anatomiques, très peu de la sexualité. Et ça, c'est peut-être le premier tort. Il vient peut-être de l'éducation nationale, non?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on va éduquer, entre guillemets, ou en tout cas apprendre à l'enfant son corps. On va lui parler d'une partie de son corps qui, à un moment donné, est un outil pour la sexualité, mais on lui parle pas de sexualité. On lui parle de reproduction, on lui parle de contraception, on lui parle de choses importantes. C'est-à-dire la reproduction, la contraception, la grossesse, mais on parle pas de ce que ce corps permet d'autre, et entre autres, c'est l'union à quelqu'un physique.
La partie plaisir de la sexualité.
Oui, la partie plaisir de la sexualité. On parle de choses plus...
rébarbatives, ouais. En tout cas, qui nous semblent loin, contraignantes, ouais. Et qui réduisent forcément, l'attrait pour la partie plaisir. Oui. Déjà, le plaisir est freiné déjà avant de naître.
C'est une notion essentielle, cette partie plaisir. C'est bien beau de leur expliquer comment fonctionne leur corps pour pouvoir se reproduire, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, on est une espèce qui ne pratique pas la sexualité exclusivement pour la reproduction.
Non.
On est une espèce qui pratique d'ailleurs en majorité la sexualité pour le plaisir.
D'ailleurs, j'ai pas encore commencé la partie reproduction, moi, personnellement.
Voilà, donc c'est pour ça que je dis en majorité, c'est-à-dire que dans une vie, pour ce qui concerne la reproduction, c'est quand même la plus petite partie de notre sexualité. C'est ce qui nous prendra le moins de temps, en réalité.
Cela dit, on peut comprendre que les parents n'aient pas spécialement la pensée ou l'envie de dire à leur enfant dès l'âge de 12 ans, vas-y, éclate-toi.
Oui, c'est exactement ce que je pensais, vas-y, éclate-toi. Dès l'âge de 12 ans, peut-être pas, mais à un moment donné, il faudrait peut-être quand même leur permettre de penser qu'ils peuvent s'éclater aussi avec ça et le vivre sereinement.
Sans calquer sur un modèle, comme vous disiez, ouais. Ce qui est important, effectivement. Ouais.
Et justement, si c'est pas l'éducation nationale qui le fait actuellement, donc ce projet il a été mené par le service jeunesse, donc nous animateurs, en lien aussi avec le service lecture publique, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est à la médiathèque d'Èvres et que ces ouvrages vous pouvez les retrouver dans toutes les médiathèques, bibliothèques de toute la CCVI, dans tous les accueils jeunes, et on va faire en sorte aussi qu'ils soient dans les CDI des collèges du territoire. Oui. Selon vous, quel est l'intérêt d'un tel ouvrage et quel est l'intérêt d'un service jeunesse sur cette thématique?
Alors, l'intérêt d'un ouvrage sur le thème de la sexualité, c'est déjà de commencer peut-être à donner des réponses aussi à des questions qu'on aurait souhaité dire. Avoir un livre entre les mains, c'est que si on a des questions qu'on n'a pas osé se poser, on va avoir les réponses sans avoir eu besoin de les poser, c'est-à-dire qu'on obtient des réponses. Ça me semble quand même essentiel. Il y a des questions qui sont parfois gênantes à poser et que du coup, l'ouvrage permet ça. C'est-à-dire que je peux le garder pour moi, je lis. Personne ne sait que j'ai, à travers cet ouvrage, trouvé ce dont j'avais besoin. Donc je pense que c'est essentiel, les livres aussi. Mais comme je parlais tout à l'heure d'accompagnement à l'image, je pense que c'est aussi important d'accompagner l'écrit et de pouvoir en discuter aussi après. Donc c'est bien d'avoir des supports, en fait. Parler comme ça simplement de sexualité, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on passe plus facilement à travers un support. Dire qu'en disant, tiens, regarde, j'ai ce bouquin, vas-y, jette-y un œil, et puis dis-moi ce que tu en penses. Et du coup, avoir un support, ça commence à donner une amorce, en fait. C'est-à-dire qu'on va partager quelque chose ensemble, on va avoir eu acquis un savoir qui n'est peut-être pas le même. C'est-à-dire que j'aurais peut-être pas, effectivement, découvrir les mêmes choses dans un livre qui parlerait de sexualité qu'un adolescent, mais on aurait quelque chose en commun. Et le fait d'avoir quelque chose en commun, c'est-à-dire d'avoir partagé une lecture, je pense que ça crée déjà du lien. C'est important.
Et le fait que, nous, c'est ce qu'on voit, on dit toujours, on a, En gros, les adolescents ont trois strates qui gravitent autour d'eux, les parents, l'éducation nationale et toute la partie loisirs que nous on représente, mais qui peut être aussi représentée par tout ce qui va être club sportif, etc. Et nous, on le voit, on peut être aussi cette personne qui peut accompagner, qui peut donner des réponses, qui peut sensibiliser. Et moi, personnellement, j'ai été assez étonné quand j'ai parlé du projet aux jeunes qui côtoyaient l'accueil et que je leur ai dit, bon bah voilà, témoignage anonyme, t'as toutes ces thématiques-là. Toutes les personnes que j'ai sollicitées m'ont dit, je peux te parler de ça, mais aussi de cette première fois, cette première relation sexuelle, quand même un moment assez intime. Et c'est là, moi, ça a été vraiment un élément en tant qu'animateur jeunesse pour me dire, il y a une réelle confiance qui a été créée avec ces jeunes que j'accompagne depuis qu'ils ont 13, 14 ans et qui ont maintenant 16, 18 ans. Et ils ont tous dit, il n'y a pas de souci, je peux te parler de ça avec toi, il n'y a pas de souci. Donc, c'est aussi l'intérêt, je pense, de...
Tout à fait, c'est-à-dire que vous avez, enfin, l'enjeu affectif avec vous n'est pas le même. Il est moins important entre guillemets que celui avec les parents inévitablement, donc du coup il y a moins de crainte sur votre jugement.
Bien sûr.
Ils se sentent beaucoup plus libres de pouvoir parler de ce sujet-là avec vous, de partager cette expérience avec vous, parce que c'est pas le même enjeu. Il y a peut-être un enjeu affectif, mais je pense qu'ils sont beaucoup moins inquiets du jugement. Du coup, ça libère la parole aussi. C'est ce qui se passe dans mon bureau aussi. Hein. Quand je reçois en consultation des adolescents et qu'on doit aborder ce sujet, je pense qu'ils en parlent plus librement avec moi qu'avec leurs parents, parce qu'il n'y a pas d'enjeu affectif avec moi. Et du coup, ils savent que moi, mon statut de psychologue fait que je suis pas là pour juger ce qu'ils ont à dire. Donc, ça peut plus facilement. Ils savent qu'ils vont pas me choquer, que je vais pas m'inquiéter. Je suis pas leur parent, donc je vais pas me poser 36 questions autour de ce qu'ils vont avoir à me dire.
Mais c'est vrai, quand on a ce type de discours, en tout cas qu'on entend ces choses des jeunes, on a envie quelque part d'aider, d'être l'intermédiaire avec les parents, de dire c'est possible, il y a des choses qui sortent, mais la situation elle est délicate, elle est compliquée. Donc quand des problèmes assez importants sont soulevés, il faut toujours essayer d'amener la discussion autant que possible avec les parents, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué.
Enfin, c'est un sujet qui reste encore tabou et c'est triste. Je trouve.
Alors justement, ben voilà, les tabous, il y a peut-être en deux mots des façons plus simples de l'élever, mais on remarque qu'on s'en sort jamais finalement.
On s'en sort jamais, comme vous dites. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça n'évolue pas beaucoup.
Parce que la sexualité, tout à l'heure, on entendait qu'elle était de plus en plus présente. En tout cas, c'est ce qu'il se disait. Effectivement, c'est un constat général qu'on peut donner, en tout cas sur les écrans. Pour autant, vous l'avez dit, quand ils sont confrontés à parler d'eux-mêmes, c'est compliqué.
C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'avant, on aurait pu se dire que c'était assez logique de ne pas parler beaucoup de sexualité, vu qu'elle était peu présente, Elle était enfouie. Aujourd'hui, elle est quasi omniprésente. On sexualise tout, on va érotiser tout, même pour nous vendre un yaourt, c'est devenu érotique. Donc, ce qui est quand même assez... Enfin, oui, c'est quand même fou, je trouve. Et alors, c'est que c'est partout. Mais on n'en parle toujours pas.
Dès que ça concerne la personne, la propre intimité, ça devient
compliqué. Rentre dans la team, ça y est, ça devient compliqué d'en parler, alors que c'est partout. Donc on aurait pu penser que ça aurait libéré la parole, en fait, cet accès comme ça, facile à la sexualité, et ben pas du tout. Ça ne libère rien du tout, en fait. C'est-à-dire qu'on est toujours dans les mêmes problématiques, ados, parents. On est toujours dans cette difficulté que l'adolescent a de parler à sa famille et le regard que les adultes portent sur ce qu'est l'adolescence. Qui est un regard d'ailleurs plus stigmatisant aujourd'hui qu'avant. Les adultes aujourd'hui ont une vision plus négative de l'adolescence qu'il y a 20 ou 30 ans.
Vous trouvez ?
Oui. Ils les considèrent plus mal. Je trouve que c'est dur d'être un adolescent aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Ils sont très stigmatisés et les jugements sont assez durs, virulents sur eux.
À nous en parler pas, on travaille avec eux tous les jours, c'est pas évident. Hein.
C'est vrai.
On en souffre énormément.
Merci beaucoup, en tout cas, de votre intervention, d'avoir porté votre regard sur cet ouvrage, d'être venu à Eve durant cet après-midi. Donc, je le répète, ces ouvrages, vous pouvez les retrouver dans toutes les médiathèques, bibliothèques de la CCVI, dans les accueils jeunes également, bientôt dans les CDI des collèges. Pour terminer cette journée, est-ce que vous avez un dernier mot pour les auditeurs de la RAGE et pour les personnes et le public actuellement dans la médiathèque?
Vous me prenez un peu au dépourvu.
La dédicace.
Est-ce que j'ai un dernier mot? J'ai passé le dernier mot que je vais avoir va s'adresser à vous. J'ai passé un bon moment avec vous. Merci.
Merci à vous.